10 minutes, c'est le temps d'attendre votre bus le matin ou le soir, le temps de vous poser un masque sur le visage pour vous détendre, le temps de ranger votre bureau, le temps de promener votre chien, le temps de préparer votre boîte déjeuner pour le lendemain, et comme par hasard, vous pouvez faire tout ça en écoutant les Picurieuses.
Comment est votre blanquette ?
Dans la cuisine, c'est moi le patron.
Ah, la cuisine, c'est votre domaine ?
Oui.
Quiche de votre vie. Les garçons et Guillaume à table.
Et voilà de la purée mousseline.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'Épicurieuse, le podcast qui analyse chaque premier dimanche du mois une curiosité culinaire du moment. On en mange tous les jours ou presque sans le savoir, pourtant quand j'ai commencé à m'intéresser aux aliments fermentés, la première réaction des gens autour de moi n'a pas franchement été celle que j'avais imaginée.
Ah !
Oh !
Et oui, le terme de fermentation inspire à la plupart des gens du dégoût, car on le rattache à des notions de gaz, de pourri, de moisissure. Mais si je vous disais que la choucroute, une pinte d'IPA, une bonne tranche de comté, ou tout simplement une belle miche de pain au levain, et bien tout ça c'était des aliments fermentés. Fermentation, ça a aussi l'air d'être le nouveau mot-clé des gourous d'un mode de vie sain. Alors fasciné par ce procédé ancestral et voyant que les chefs d'aujourd'hui remettent cette méthode à la mode, je me suis renseignée sur le sujet, notamment auprès de la papesse française de la fermentation, Marie-Claire Frédéric. Auteure d'un blog sur le sujet, elle vient d'ouvrir en plein centre de Paris une cantoche spécialisée dans la fermentation. Ça s'appelle Suri, et Suri ça veut tout simplement dire rendu aigre par un procédé de fermentation. Et ça ressemble un peu à Silky. Sauf que Silky, c'est le deuxième lieu dans lequel on m'a donné rendez-vous pour ce podcast, dans le 13e arrondissement de la capitale. Les Joyeux Lurons à l'origine du projet servent plusieurs soirs par semaine des boissons fermentées qu'ils fabriquent sur place. Si je vous dis kéfir ou kombucha et que ça ne vous dit rien, bah je vous invite à bien nous écouter jusqu'à la fin. Allez, c'est parti, en route vers le monde merveilleux des micro-organismes. Première question toute bête que je me suis posée, qu'est-ce que c'est un aliment fermenté ?
Un aliment fermenté, c'est un aliment qui a été transformé par des micro-organismes. Ces micro-organismes vont sécréter des enzymes qui agissent comme des usines chimiques, de minuscules usines chimiques qui vont casser les molécules des aliments et les transformer. Et dans cette transformation, nous trouvons un avantage pour notre santé, également un avantage pour le goût.
On imagine, Marie-Claire Frédéric, que ça ne se fait pas tout seul comme ça.
Alors la fermentation, c'est la vie sans air, disait Pasteur. Il suffit de mettre l'aliment en anaérobie, donc en l'absence de l'air, ce qui est le cas par exemple dans un bocal hermétiquement fermé. Il s'agit donc des micro-organismes qui sont déjà présents sur l'aliment au départ. Par exemple, si vous faites des carottes, là, ce sont les microbes qui sont sur les carottes au départ. Étant dans des conditions favorables, ils vont commencer à se multiplier puis à transformer les aliments.
La fermentation, ça a d'abord pris aux États-Unis avec un argument choc, l'argument santé.
La fermentation, déjà, premièrement, rend les aliments plus digestes. Les fibres vont être transformées, les molécules vont être cassées et les gens qui ont du mal à digérer les fibres n'ont aucun mal avec quelque chose de fermenté. La fermentation va fabriquer des vitamines qui n'existent pas dans l'aliment au départ. La fermentation va aussi créer d'autres substances comme des acides aminés, des acides gras, des acides organiques qui sont très intéressants aussi pour notre santé. Et ça va rendre les minéraux et certains nutriments plus disponibles par notre corps. Ça apporte également des probiotiques vivants. Donc les probiotiques, on en parle beaucoup dans la médecine actuelle, c'est ce qui va renforcer notre flore intestinale, ce qui va renforcer notre système immunitaire. Certaines personnes prennent des probiotiques en gélules qu'elles achètent en pharmacie, mais avec juste une portion de légumes fermentés, c'est comme si on avalait toute la boîte de gélules d'un coup.
Mais alors le fermenté, quel goût ça a ?
Ce qui est très intéressant, c'est que ça va enrichir la palette aromatique de l'aliment. Je prends toujours l'exemple de la différence entre le jus de raisin et le vin. Vous voyez, dans le jus de raisin, bon, c'est du jus de raisin. Mais dans le vin, on trouve plein de saveurs, plein de goûts, plein d'arômes qui sont différents de ceux qui étaient dans le jus de raisin au départ. Et c'est la fermentation qui a créé ça. Et c'est la même chose pour n'importe quoi, même pour une carotte, pour un céleri. Le fait de le faire fermenter, ça va ajouter des arômes, ça va ajouter des saveurs différentes. Et ça va donner une profondeur aussi au goût. C'est comme si ça changeait la longueur d'onde du goût. C'est un peu ce que les Japonais appellent l'umami.
Maintenant qu'on est rassuré sur le fait que c'est bon en bouche et bon pour notre système digestif, comment est-ce qu'on les prépare, ces aliments fermentés ?
Ça dépend ce qu'on veut travailler. Par exemple, si on veut travailler le lait, on peut faire des yaourts, on peut faire du fromage. Si on veut travailler la viande, le saucisson, par exemple, c'est de la viande fermentée. Peu de gens savent ça. Donc on peut faire des charcuteries, du saucisson. On peut mettre la viande en saumure pour faire du petit salé, du cornet de bœuf aussi. Le poisson, pareil, on peut le faire salé et le faire macérer comme ça, attendre et ça va fermenter. Pour les légumes, la principale chose, c'est qu'on fait lacto-fermenter, c'est-à-dire qu'on met en bocal ou dans des jarres et on attend quelques jours que la fermentation s'opère toute seule.
Qu'est-ce que c'est justement la lacto-fermentation ? On en parle beaucoup, mais d'où ça vient et pourquoi le lacto-fermentation ?
Ça n'a rien à voir avec le lait. C'est parce que les micro-organismes vont fabriquer comme élément principal de l'acide lactique. On l'a nommé ainsi à cause du lait, parce que la fermentation du lait produit de l'acide lactique, mais ce n'est pas lié au lait. La choucroute, il y a aussi de l'acide lactique, alors qu'il n'y a pas un gramme de lait ou de lactose dedans. On nomme en général les fermentations d'après le produit principal qui est créé par les micro-organismes. Par exemple, la fermentation alcoolique, parce que ça produit de l'alcool. La fermentation acétique, c'est le cas du vinaigre, ça produit de l'acide acétique, etc.
Regardons donc ce qu'on trouve sur les étagères de Suri.
Nous faisons aussi beaucoup de légumes que nous utilisons dans des quiches ou dans des salades ou dans des soupes aussi. Nous faisons aussi pas mal de produits laitiers, nous faisons nos yaourts nous-mêmes, tout ce qui est yaourt, nous faisons nous-mêmes. Nous faisons du fromage frais, nous faisons fermenter des fruits aussi pour faire des salades de fruits qui sont un peu pétillantes.
Et à la maison, on fait comment ?
Alors je prends mes légumes, je les émince très très finement, je les tasse dans un bocal avec 1% de sel. Ensuite je referme le bocal, je mets le caoutchouc, je referme ça. Le fait d'être enfermé dans le bocal, ça le met en anaérobie. Je laisse ça à température ambiante et 15 jours après, ça s'est transformé en choucroute ou en autre aliment fermenté. C'est d'une simplicité assez enfantine. Mais après, il y a plein de paramètres à maîtriser. La température, le choix des légumes, la durée de fermentation, etc. Il ne faut pas que ce soit trop acide. Il faut que ce soit assez acide pour qu'on sente bien la transformation de la fermentation. C'est comme le vin. En fait, le vin, c'est simple. Vous prenez du raisin, vous le pressez, vous le mettez dans un tonneau et puis vous attendez que ça fermente. Seulement, si vous faites ça, que vous n'êtes pas habitué, la plupart du temps, vous allez avoir du vinaigre, vous n'allez pas avoir du vin, voilà.
Tiens, puisqu'on parle de jaja, allons voir du côté des boissons fermentées ce qu'on peut se servir à boire chez Silky. Alors, chez Silky, on trinque classique avec des bières. Plus étonnant, on trouve aussi du kéfir de fruits et du kombucha. Et alors, le pompon, c'est le soda au gingembre. Comment on fait ça, me direz-vous ? Eh bien, je vais laisser Pierre Faudot-Dibel nous expliquer tout ça.
On prend un gingembre qui doit être bio parce qu'il ne doit pas être traité pour avoir toutes les bactéries et toutes les levures qui sont présentes naturellement sur la peau du gingembre. Et on le met dans de l'eau, on le met avec du sucre, on rajoute du sucre et à force, on développe toutes ces bactéries. Et on fait ce qu'on appelle en anglais un ginger bug, donc un levain de gingembre. Et c'est ça, c'est donc une sorte de jus riche en ferments. Et on le met donc avec une eau sucrée. Donc le sucre nous vient du sirop artisanal et ça nous donne ces sodas. Le kéfir, ça va se rapprocher plus d'une citronnade. En fait, on utilise des grains de kéfir, qui sont des petits grains blancs, plutôt transparents, et qu'on va mettre avec de l'eau sucrée et du citron. Et le kombucha, c'est une mer de kombucha, c'est comme une mer de vinaigre, donc ça ressemble plus à une sorte de méduse au final. Et en fait, qu'on le met avec du thé sucré, et en fait, donc ça va fermenter.
Bon, on parle un peu chinois là. Alors, on les trouve où ces graines et ces mers ?
Tout ce qui est grains de kéfir, mer de kombucha, en fait c'est quelque chose, si on essaye de vous le vendre, faut pas accepter que c'est quelque chose qui se donne, et c'est comme ça depuis toujours. Et en fait, donc soit sur Facebook par exemple, il y a plein de, vous tapez grains de kéfir ou mer de kombucha, vous allez trouver plein de groupes justement qui sont dédiés à ça, et où les gens s'échangent les grains et se donnent des grains, parce qu'en fait quand on fait de la production, en fait, ces grains ils grandissent. Une mer de kombucha entre deux brassages, on va la doubler quasiment. Donc en fait, quand on est seul, si on fait qu'un litre, après on en aura deux, donc on pourra en faire deux. Donc en fait, finalement, soit on explose notre production, soit on la jette, soit on la donne.
Et alors à la maison, donc on a récupéré nos grains ou nos mers de kombucha. Comment on fait ? Est-ce qu'il y a du matériel spécifique à avoir ou c'est quelque chose de plutôt facile à faire avec ce qu'on a dans les placards ?
Alors, ce qui est bien, c'est que c'est assez simple. Pour le kéfir, il faut prendre de l'eau déchlorée idéalement, donc on la laisse une à deux heures, elle va être déchlorée. On met donc du sucre, on met donc du citron, on peut mettre des figues séchées. Il y a aussi des gens qui font sans et ça se passe très bien. On a ça, cette base, après on met les grains. On laisse ça pendant deux jours dans par exemple un pot le parfait fermé. On enlève ces grains, on aromatise justement notre eau de kéfir. Donc nous là on met beaucoup de jus de citron, on met de l'hibiscus, on peut mettre plein de choses, on peut mettre de la cardamone, il y a juste notre imagination qui peut nous arrêter. Et ensuite on attend encore deux jours et ensuite on le met en bouteille. Et après, nous, on attend encore deux jours. Et ensuite, on met ça au frigo et on boit ça quand on veut. Il y a quand même ce petit côté un peu levuré, même quand nous on fait notre soda au levain de gingembre, on a ce côté un peu de levure, mais c'est un côté qui est assez subtil. Ça reste des boissons qui sont acides. Par exemple, le kéfir, c'est une fermentation lactique, donc on a cet acide lactique qui va donner une petite acidité. Le kombucha, c'est une fermentation acétique, donc comme ce côté un peu vinaigré, mais qui est quand même assez léger. Après, il y a des gens qui vont l'aimer plus ou moins d'acide, et ça, si on le fait chez soi, justement, on peut complètement gérer ça, et en rajoutant d'autres choses, plus de citron, plus de différents arômes, et on arrive toujours à adapter à ses goûts, je pense.
Avouez que c'est assez tentant et qu'on a carrément envie d'enfiler une blouse de petit chimiste. Seule mise en garde concernant ces boissons, les fermentations sont très actives, donc en cas d'intestin fragile, on y va petit à petit. Et pour ceux qui ne veulent pas se lancer, on vous liste en barre d'infos plein de lieux qui travaillent la fermentation. À vous de jouer! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui décerner 5 étoiles sur iTunes et à le partager sur les réseaux sociaux en taguant l'épicurieuse sur Twitter et Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle tendance à décortiquer. D'ici là, restez curieux, restez épicurieux.